Chapitre 8. Évidemment, il faut lire Ésaïe 7 et Ésaïe 9 aussi bien qu'Ésaïe 8. Michael dira il faut lire tout le livre d'Ésaïe. D'autres diront il faut lire toute la Bible aussi pour avoir le contexte. Donc voilà, et c'est important de lire la Bible, effectivement, de voir que le contexte, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible entière, n'est-ce pas? Et j'aimerais prendre d'abord, avant de considérer le chapitre 8, j'aimerais qu'on considère juste un petit verset dans le chapitre 7, où il est dit au verset 1 que le roi d'Israël et le roi de Syrie, qui avaient fait alliance, n'est-ce pas, quelque chose qui n'aurait pas dû être faite, une alliance qui n'aurait pas dû être faite, eh bien, ils ont fait alliance et ils sont venus pour troubler Juda, la tribu de Juda. Ils sont venus près de Jérusalem pour essayer de leur faire peur, pour essayer de les inciter à s'allier à eux, n'est-ce pas? Et il est dit ici qu'ils sont venus pour l'assiéger. C'est au verset 1 du chapitre 7, « Mais il ne put l'assiéger ». Voilà quelque chose, une déclaration merveilleuse, n'est-ce pas? Parce que vous êtes conscients, vous comme moi, que nous sommes assiégés par tout un tas d'idéologies, par tout un tas de puissances, n'est-ce pas, qui viennent essayer de nous, oui, assiéger, de nous prendre de leur côté. Il est pas anodin de voir que ces deux rois étaient venus et ils se sont tenus près de l'aqueduc de l'étang supérieur. J'ai déjà parlé de ça il y a longtemps concernant Sanchérib, quelques chapitres plus loin, au chapitre 36 d'Ésaïe, lorsque Sanchérib vient essayer de perturber Ézéchias et le peuple de Juda, encore une fois, à Jérusalem. Ils se tiennent à l'aqueduc de l'étang supérieur. L'aqueduc, c'est ce qui conduit, n'est-ce pas, l'eau dans la ville de Jérusalem. Quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Quelque chose de très riche, quelque chose de précieux pour une ville qui avait une forte muraille, que de pouvoir avoir de l'eau qui vienne d'une source et qui coule directement dans la ville jusqu'au réservoir de Siloé. Et c'est précisément là que va se tenir, n'est-ce pas, ces puissances qui veulent vous assiéger, qui veulent vous influencer, qui veulent vous faire venir de l'autre côté. Ils vont venir à la source, là où l'eau rentre dans votre vie. Et vous avez reçu, peut-être, même si vous n'êtes pas au Seigneur, vous avez reçu de l'eau qui est rentrée dans votre vie. Les jeunes qui sont dans cette église, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, eh bien, ils ont entendu, il y a un moment donné de leur histoire ici dans cette église, où ils ont entendu la parole de Dieu qui est rentrée, qui a pénétré par leurs oreilles, ou peut-être parce qu'ils ont vu, vous avez entendu un témoignage ce matin de la puissance de Dieu. Et ça, c'est de l'eau qui rentre dans votre vie. Et vous allez voir comment on peut traiter cette eau, comment on peut considérer cette eau. Mais ce qui est sûr, dans un premier point, c'est que les puissances adverses, n'est-ce pas, le roi de Syrie, eh bien, va venir et va lancer un défi. Il va commencer à essayer d'assiéger cela. On n'a pas besoin d'aller loin, n'est-ce pas? Il suffit de considérer les puissances qui s'exercent dans les milieux scolaires, dans les universités, où on va essayer d'assiéger la foi, où on va essayer d'assiéger la façon de voir, la façon de croire, la façon d'entendre. Mais regardez cette promesse ou cette parole qui était dite ici, « Mais il ne put l'assiéger. » Parce que si vous donnez votre vie à Christ, eh bien, il y a quelque chose de sûr, c'est que Dieu va vous protéger. C'est qu'il n'y a pas de puissance qui puisse s'exercer contre votre vie, qu'il n'y a pas de puissance qui puisse diriger vos pensées, vous éloigner de Christ. Parce que c'est Dieu lui-même qui vous protège. Et combien il est important de se mettre sous la protection de Dieu. Combien il est important que nos familles entières soient sous la protection de Dieu. On va voir tout à l'heure que Ésaïe pouvait donner ce témoignage-là. Ésaïe était prophète de Dieu. Et dans le chapitre 8, il est dit que sa femme était prophétesse. Tous les deux parlaient au nom de Dieu. Tous les deux recevaient la parole de Dieu dans leur vie. Et ils avaient au moins deux fils. On va voir ces deux fils tout à l'heure. Et ces deux fils, eux aussi, étaient des porte-paroles de Dieu, ne serait-ce que par leur nom et par leur présence. Ils étaient un signe, il nous est dit dans le chapitre 8. Ils étaient un signe, un présage pour le peuple de Dieu. Et cette famille, eh bien, était là dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, et marchait dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, selon la parole de Dieu, que le roi de Syrie ne pouvait pas assiéger Jérusalem. Tant que Jérusalem, tant que Juda restait attaché à son Dieu. Vous savez, autour des villes, bien sûr, comme Jérusalem, il y avait une muraille. Et autour de votre vie, il y a une muraille aussi. Ou peut-être il n'y en a pas. Peut-être c'est le drame, maintenant de plus en plus, dans notre société où les murailles ne sont pas solides, où les murailles sont fragiles autour des vies, n'est-ce pas? Parce que on commence à réviser au niveau de l'éducation des enfants les principes fondamentaux et on empêche ces enfants d'avoir une solide muraille autour de leur vie. Ou peut-être c'est notre façon de vivre qui a fait qu'on n'a plus de muraille. Vous savez qu'il y a un proverbe, c'est le dernier verset de Proverbe 25, je crois, qui dit que l'homme qui ne peut pas se contrôler est comme une ville sans muraille. Peut-être que dans votre vie, vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous n'avez plus de muraille autour de votre vie. On peut vous assiéger comme on veut, on peut vous influencer comme on veut. Mais en Christ, dans Zacharie, il est dit que le Seigneur sera comme une muraille de feu autour de Jérusalem. Est-ce que vous avez connu ça? Est-ce que vous connaissez ça? Cette muraille de feu qui est autour de votre vie. Est-ce que vous avez demandé au Seigneur de recevoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui vous environne, qui vous protège? C'est pas vous protéger des accidents. C'est pas vous protéger des maladies. C'est pas vous protéger des agressions. Oui, vous en aurez des agressions, surtout si vous avez une muraille de feu autour de votre vie, sur le plan spirituel. Vous serez assiégé. On va essayer de vous combattre. On va essayer de se moquer de vous. Mais on ne pourra pas vous assiéger tant qu'il y aura cette muraille. Et ce matin, j'aimerais que plusieurs d'entre nous rentrent dans cette recherche de la présence de Dieu d'une manière spéciale dans nos vies, de sorte à ce que nous ne soyons pas influencés par ce qui peut être dit, par toutes les puissances, par toutes les autorités, par toutes les influences qui sont autour de nous. Oui, le monde est influencé, mais c'est normal s'ils ne connaissent pas Christ. Comment voulez-vous que, si on ne connaît pas Christ, si on n'est pas solidement attaché à Christ, comment voulez-vous qu'on ne soit pas influencé par le monde et par ses tendances et ses philosophies? Donc ici, voilà, le peuple, il y a une déclaration merveilleuse. Le roi de Syrie et le roi d'Israël ne peuvent pas assiéger Jérusalem. Qu'est-ce que faisait le roi d'Israël là avec le roi de Syrie? Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit le roi, celui qui représente le peuple de Dieu, qui fait alliance avec le peuple ennemi. C'est ce qui va se passer de plus en plus dans les années qui viennent, où les mouvements religieux qui ont été des mouvements de réveil, eh bien, on va faire alliance avec l'idéologie, les idéologies dominantes qui se tiennent à l'aqueduc de l'étang supérieur, qui se tiennent là pour rentrer dans la vie des jeunes, pour rentrer dans la vie des gens. On va voir que les représentants d'église vont s'associer avec des représentants d'idéologies diaboliques. On trouve que dans le réveil qu'il y a eu en Grande-Bretagne avec les Wesley, eh bien, il y a eu un mouvement de réveil qui s'appelait le méthodisme, n'est-ce pas ? Et malheureusement, à part quelques églises méthodistes en Grande-Bretagne maintenant, qui marchent encore dans l'esprit du mouvement d'origine, eh bien, il y a une dégradation totale, n'est-ce pas ? Ce sera la même chose avec le mouvement évangélique. On ne devient pas évangélique, n'est-ce pas ? Il ne faut pas devenir évangélique. Il faut devenir un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous fait marcher avec Christ. C'est ça qui fait que l'on n'est pas assiégé. Mais on va considérer maintenant le chapitre 8 et on va regarder le verset 6 ou le verset 5. L'Éternel me parla encore. Ésaïe pouvait dire ça. Quelquefois, on est tellement malheureux au fond parce qu'on dit « Ah, le Seigneur m'a parlé il y a 15 ans. » Il nous a parlé il y a 15 ans, mais est-ce qu'il nous a parlé depuis ? N'est-ce pas ? Ah, moi je suis souvent comme ça, où je peux tracer dans l'histoire de ma vie là où l'Éternel m'a parlé. Mais est-ce qu'il m'a parlé ce matin ? Est-ce qu'on est à l'écoute ? Est-ce qu'on peut entendre sa voix qui nous parle ? Et là, Ésaïe, Dieu lui parlait constamment. L'Éternel me parla encore et me dit, « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qui s'est réjoui au sujet de Retsin, qui est le roi de Syrie, et du fils de Remalia, qui est le roi d'Israël. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie maintenant, et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda. Il débordera, il inondera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel, ô Dieu avec nous. » Voilà, n'est-ce pas, quelque chose de terrible, simplement un avertissement. Ici, il est dit au peuple, il est dit à Ésaïe de dire au peuple de Juda, « Mais parce que vous avez méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. » Et ce que je crains, c'est que ce soit le danger, n'est-ce pas, de mépriser la parole de Dieu qu'on a pu entendre. Mépriser peut-être les chants ringards, comme certains diront, que l'on peut chanter, qui ont marqué votre enfance. Mépriser ce petit groupe de chrétiens qui ne payent pas trop de mine, n'est-ce pas, de dire « Voilà, moi je veux chercher mieux. » Je veux chercher ailleurs, je veux chercher la puissance. Je veux chercher ce qui tape à l'œil, ce qui va être très influent. Et alors on se met à mépriser les eaux de Siloé qui coulent doucement. Seulement c'est dans ces eaux-là que vous pourrez trouver la guérison, que vous pourrez trouver le salut. Vous savez que les eaux de Siloé, on le retrouve dans Jean chapitre 9. Avec un aveugle qui a rencontré Jésus, ou c'est Jésus qui l'a rencontré. Et Jésus a craché par terre. Il a fait de la boue avec sa salive et avec la terre qui était là, et il a appliqué ça sur les yeux de l'aveugle. Cet aveugle aurait pu dire, non, c'est pas propre. Ça se fait pas, je risque d'avoir des maladies. Mais Jésus a fait ça sur cette personne, il a accepté. Et Jésus lui a dit, va au réservoir de Siloé et te laver. Je voudrais vous dire que je pense réellement que cet aveugle était guéri au moment où Jésus a appliqué la boue et la salive sur ses yeux. Mais il ne pouvait pas ouvrir ses paupières parce qu'il y avait cette boue et cette salive et c'est seulement quand il s'est lavé. Mais je crois que le Seigneur ce matin nous demande à certains d'entre nous d'aller au réservoir de Siloé. Si cet aveugle avait dit non, les eaux du réservoir de Siloé, ça ne me va pas. Je préfère autre chose, je préfère quelque chose de plus grandiose, n'est-ce pas? C'est pas spectaculaire, ça, d'avoir de la boue et du crachat sur les yeux. Je préfère qu'on fasse quelque chose de plus spectaculaire pour la guérison. Ce n'est pas le concept que j'avais de la guérison. Mais c'était en tout cas le concept que Jésus avait pour cette personne. Et on ne comprend pas, n'est-ce pas? Mais il lui a dit, va au réservoir de Siloé. Et c'est là où il a vu pour la première fois. Peut-être ce matin, vous avez l'impression que vous êtes aveugle. Vous avez besoin que Jésus vous touche les yeux. Votre vie est aveuglé par certaines choses, vous avez besoin de voir clair. Ce matin, si vous allez à Jésus, il va probablement vous donner quelque chose qui ne sera pas spectaculaire, mais vous aurez simplement à obéir. Je me rappelle plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas se faire baptiser parce qu'ils avaient donné leur vie au Seigneur et ils disaient que c'est ça le baptême pour eux. Et ça tient la route. Mais si cet aveugle avait dit, voilà, je crois que Jésus m'a guéri quand il a touché mes yeux, eh bien, il serait resté avec ses yeux couverts de salive et de terre. Mais Jésus lui a dit, va au réservoir de Siloé. Et si ce matin il te dit, va au baptême, eh bien, réponds. S'il te dit quelque chose d'autre qui va ouvrir tes yeux, si tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a besoin d'être guéri, eh bien fais ce que Jésus te dit. Pas ce qu'on te dit, pas ce qu'une influence, qu'un mouvement évangélique ou autre vient essayer de prononcer, mais viens, fais ce que Jésus te dit. Il y a une histoire que vous connaissez probablement dans l'Ancien Testament, Naaman, le Syrien, n'est-ce pas? Il avait un problème de lèpre. Oh, la Bible, j'aime beaucoup l'Évangile parce que c'est simple. Et l'Évangile, bien sûr, Michael le disait, c'est dans le livre d'Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, l'Évangile, évidemment, pas seulement dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. D'accord? Là, on a juste un aperçu de l'Évangile, mais tout est contenu dans la personne de Christ. Tout est contenu dans la parole de Dieu. Et Naaman, le Syrien, il avait la lèpre. Et il y avait une petite fille là qui était à son service, une petite esclave d'Israël. Et elle dit aussi, seulement mon maître pouvait connaître le prophète Élisée, eh bien il serait guéri. Elle avait la foi, n'est-ce pas? Ce que j'aimerais véritablement, c'est que les gens qui sont dans la rue puissent dire, aux gens qui sont dans la détresse, oh bien écoutez, si tu vas dans cette église, tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir ce dont tu as besoin dans ta vie. C'est arrivé, je sais qu'il y a une femme qui est allée voir un médium pour un problème familial. Et le médium a dit, ça je ne peux rien faire pour vous. Mais je connais une église là-bas, c'était dans le sud, et là ils vont pouvoir faire quelque chose pour vous. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est ça le témoignage de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Et si nous, en tant que chrétiens ici dans cette ville, on ne vit pas la puissance de Dieu et le témoignage visible que Dieu guérit le péché, qu'il guérit de la lèpre, qu'il guérit de la souillure, n'est-ce pas? Qu'il rend, il donne la vue aux aveugles, eh bien si ce n'est pas le témoignage que nous avons, alors ça ne sert à rien au fond de se rassembler. Ça doit être connu autour de nous que Dieu agit, que Dieu peut intervenir dans les vies, qu'il y a des gens qui sont transformés. On est tellement réjouis d'entendre ce témoignage ce matin, que Dieu transforme les vies, que vous pouvez être chrétien depuis des années et connaître la nouvelle naissance. Il y a des pasteurs qui connaissent la nouvelle naissance après des années de service dans le ministère, connaissent pour la première fois la nouvelle naissance, des anciens. Ça ne s'adresse pas aux jeunes seulement, ça s'adresse à tout le monde. De connaître vraiment la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est ça qu'on doit désirer. Et Naaman, ce Syrien, il a méprisé les eaux du Jourdain. N'est-ce pas? Élisée lui a dit, va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Est-ce qu'il n'aurait pas pu le guérir tout de suite? Il ne s'est même pas déplacé. Il a envoyé son serviteur pour lui dire ça. Et Naaman a une réaction que je peux comprendre. Il a dit, mais pourquoi il n'est pas descendu lui-même? Pourquoi il n'a pas imposé? Il n'a pas dit imposer les mains, mais il a dit quelque chose de semblable. Et pourquoi il aurait pu prier pour moi et j'aurais été guéri, mais il me dit d'aller me plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais c'était pour tester l'obéissance. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que vous êtes prêt à passer par les eaux du Jourdain? Et Naaman a dit, mais les eaux, les fleuves de Syrie sont propres. Les fleuves de Syrie sont mieux que ceux d'Israël. C'est mieux que le Jourdain. Eh bien, il a fallu qu'il obéisse pour être guéri. Et ce matin aussi, pour nous, c'est la même chose. Et j'aimerais qu'on puisse accepter ce que Dieu demande et pas ce qu'on voudrait. Donc voilà, ici, le peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Alors, il y a eu le fleuve d'Assyrie qui est venu. Et c'est une réalité dans nos vies aussi que si l'on méprise la parole simple de Dieu, si on méprise le message si simple de l'Évangile, eh bien, on risque d'être envahi par des courants d'eau extrêmement violents qui viennent dans nos vies nous inonder, nous submerger. Donc ça, c'est le premier point. Mais ça touchait Judas, ça touchait Israël. La déportation, vous savez, a concerné les deux, Judas et Israël. Mais dedans, il y avait ce prophète Ésaïe, cet homme qui était profondément attaché à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était intervenu dans sa vie. Vous lisez Ésaïe chapitre 6 et vous avez là un récit extraordinaire de sa rencontre avec Dieu, n'est-ce pas? Où il a eu en vision, une vision du ciel. Et la vraie raison qui me laisse penser que c'était une vraie rencontre avec Dieu, c'est qu'il a commencé à dire « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Les gens, quelquefois, viennent dire « Oh, j'ai une vision, j'ai entendu des choses comme ça. » Enfin, rarement, heureusement. Et merci Seigneur, pas dans cette église. « Oh, j'ai une vision du ciel. Je suis exalté. Je suis... Oh, c'est extraordinaire. » Je suis très sceptique. Quand on a une vision du ciel, quand on a une vision de Dieu, quand on a une rencontre avec Dieu, on est à genoux et on dit « Malheur à moi ». Parce que la rencontre avec Dieu, c'est une rencontre qui nous fait prendre conscience de notre condition de pécheur et de péché. C'est pas quelque chose qui nous exalte. C'est pas quelque chose qui va nous faire danser, la rencontre avec Dieu. Ça viendra après, quand vous serez libérés, pardonnés. Mais quand vous rencontrez Dieu, ça doit passer par l'humiliation. Et j'aimerais poser à chacun d'entre nous et à moi en premier la question. Si nous déclarons que nous avons rencontré Dieu un jour, que nous appartenons à Dieu, alors est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné de notre vie, on s'est repenti pour nos péchés? Et la repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on prononce avec les lèvres. Ce n'est pas une attitude corporelle qui consisterait à se mettre à genoux, à se prosterner, à dire « je suis coupable, je suis coupable, je suis coupable ». C'est quelque chose qui nous pousse pour dire « voilà, c'est moi qui suis misérable, c'est moi qui suis pécheur ». Et c'est ça la différence. Quand les gens viennent et disent « j'ai besoin d'être transformé parce que c'est moi qui suis coupable, c'est moi qui suis responsable ». Dans la plupart des problèmes de couple, les gens sont à demander que le conjoint change. « Seigneur, fais un miracle pour que mon conjoint change ». Et le miracle ne se produit pas parce que Dieu attend que l'on prenne conscience que c'est nous qui avons besoin d'être changés. C'est ça que l'on doit voir, c'est ça que l'on doit chercher. Seigneur, change les circonstances de ma vie, change mon environnement pour que je sois mieux. Au lieu de prier, change-moi, Seigneur, car je veux être comme toi, qui étais dans un environnement constamment assiégé, constamment entouré par l'ennemi, constamment avec des influences qui essayaient de te faire chuter, de te faire tomber, mais jamais ils ont réussi à t'assiéger. Encore une fois, Jésus pouvait dire « Le diable n'a rien en moi ». Jamais le diable a pu mettre l'emprise dans la vie de Jésus, parce que Jésus était l'image de ce que l'homme doit être, ce que la femme doit être, quand ils appartiennent au Seigneur. Le représentant de Dieu sur la terre. Et vous savez que le représentant de l'époque sur la terre, il est monté dans le ciel, il n'est plus sur la terre. Et comme a dit Pascal ce matin, le monde ne connaît pas Jésus. Et comprenez-les, quand on va à la sortie des universités questionner « Est-ce que vous connaissez Jésus ?» Les étudiants ne savent pas qui est Jésus. Si vous lui dites « Moi, j'ai rencontré Jésus », ils savent que Jésus, ça fait longtemps. Quand ils savent que ça fait 2000 ans, c'est déjà pas mal. Ils se disent « Mais tu as rencontré Jésus, qu'est-ce que tu veux dire ? Ça n'a aucun sens. » Mais lorsqu'ils voient une vie transformée. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas dire « Est-ce que tu as rencontré Jésus ?» Il faut aussi verbaliser, c'est très important. Mais quand ils voient une vie transformée, quand ils voient une vie qui n'est pas assiégée, malgré toutes les pressions, malgré toutes les insultes qui sont portées sur la personne n'est pas assiégée, elle est en paix, elle est dans la joie, elle a la patience, elle a la bonté, elle a la tempérance, elle a la douceur, elle a la fidélité. Eh bien, c'est ça qui touche le cœur. C'est ça qui touche la vie des gens, de voir que des chrétiens vivent cette vie avec cette muraille, comme il est dit dans Ésaïe 26, le salut ayant pour salut, ayant pour muraille le salut. Une ville qui a comme muraille le salut de Dieu. Eh bien, c'est ça qui va toucher les cœurs des gens. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que c'est ça que je veux ce matin ? Être un témoignage de la présence de Dieu, le fait que les influences du monde ne peuvent pas nous toucher parce que nous sommes sous sa protection. Et donc Ésaïe, ce prophète, il a eu la présence de Dieu dans Ésaïe chapitre 6, n'est-ce pas ? Il a dit « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel. » Et l'un des séraphins est allé vers l'autel, il a pris, avec une pincette, il a pris un charbon ardent et il l'a mis sur les lèvres et il était purifié. Comme l'aveugle, dans Jean chapitre 9, était guéri, comme Naaman était guéri et pouvait témoigner qu'il avait été purifié. Est-ce que ce matin, vous avez fait cette rencontre avec Jésus-Christ ? C'est dur quand on a été chrétien depuis longtemps de dire je ne suis pas sûr d'avoir rencontré Jésus-Christ. Je ne suis pas sûr d'être passé par la repentance. Je ne suis pas sûr que sa vie est venue m'inonder, son Esprit Saint me remplit. Mais ce que Jésus vous demande ce matin, c'est d'aller le voir, d'aller lui parler, d'aller lui dire « Seigneur, je veux te rencontrer ». Ne demandez pas que vos circonstances de vie changent. N'espérez pas que la société française va changer, qu'on va dire « ben, on va instaurer un peu de christianisme ». De toute façon, si on disait ça, je m'en méfierais. Ça serait du christianisme laïque. Non, on va instaurer beaucoup de choses que l'on ne peut même pas soupçonner. Pas seulement en France, en Europe. Et dans le monde. Mais est-ce que... Donc les circonstances ne vont pas changer, je pense. Mais est-ce que nous, on va changer ? Est-ce qu'on va être fortifié par l'Esprit de Dieu de sorte à ce qu'on ne puisse pas être assiégé ? Ésaïe pouvait dire, parce qu'il avait fait cette rencontre, il pouvait témoigner dans le chapitre 8, au verset 11... Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Lorsque sa main me saisit, est-ce que la main de Dieu vous a saisi ? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, je sais Un jour, il m'a saisi. J'ai entendu beaucoup de gens donner ce genre de témoignage quand ils étaient au fin fond de la drogue, quand ils étaient au fin fond de la détresse spirituelle. Ils savent qu'un jour, Dieu les a saisis parce qu'ils étaient aux portes de l'enfer, aux portes de la mort, et ils ont été ramenés à la vie, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous qui avez eu une vie plus tranquille, plus correcte, est-ce que vous pouvez dire qu'un jour Dieu vous a saisi? Mais c'était le témoignage d'Ésaïe lorsque sa main, la main de Dieu, l'a saisi. Oh, Jérémie avait été saisi aussi par la main de Dieu, et à certains moments il disait j'aurais préféré qu'il choisisse quelqu'un d'autre que moi parce que je dois faire vraiment des choses difficiles. Mais Ésaïe, lui, semblait tellement rentré dans ce plan de Dieu et il était content d'avoir été saisi par Dieu. Et Jérémie l'était aussi, bien sûr. Et Dieu l'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. C'est un avertissement pour vous ce matin, pour moi ce matin, de ne pas marcher dans les voies de ce peuple. Même si, à l'aqueduc de l'étang supérieur, il y a la présence de deux rois, dont un est religieux, dont un est le représentant du peuple de Dieu, qui vous dit « il faut faire ceci, il faut vous allier à nous, il faut ceci ». Ne marchez pas selon les voies de ce peuple. Vous n'avez pas à écouter ces voies-là si vous avez reçu, compris ce que sont les eaux de Siloé, là où vous pouvez trouver la purification. Mais vous savez que, fondamentalement, Dieu ne va pas laisser en vous le réservoir de Siloé. Parce que vous lisez dans Ézéchiel, je crois que c'est 44, combien la Nouvelle Jérusalem ou la ville de Jérusalem, le temple, était envahie par l'eau. Si vous lisez dans l'Apocalypse la description de la Nouvelle Jérusalem, il y a un fleuve d'eau vive qui coule avec de l'eau pure comme du cristal. Comment reconnaître le fleuve d'eau vive de Dieu et le fleuve d'eau vive de Syrie et du monde? C'est que le fleuve d'eau vive du monde est souillé, impur. Le fleuve de Dieu est pur. Et dans votre vie, quel est le fleuve qui traverse? Ça commence par les eaux de Siloé qu'il ne faut pas mépriser. Et puis Dieu va transformer ça en un fleuve d'eau vive, d'eau pure. Quel est le type de fleuve qui coule dans notre vie? Il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. J'aimerais juste continuer rapidement pour terminer bientôt. Il a dit au verset 17, encore une caractéristique que j'ai mentionnée, au verset 18 plutôt, « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées. » Dieu lui a dit d'appeler son fils, je l'ai appris par cœur, « Maher Shalal Shazbaz. » Si vous ne savez pas comment appelez votre enfant, plus tard votre fils, vous pouvez choisir ça. C'est historique. L'état civil probablement va faire la grimace, mais vous avez le droit. C'est pas très joli. Alors il y a un autre choix. Dans le chapitre 7, son fils s'appelait Shear Yashub. C'est aussi une autre possibilité si vous voulez être comme Ésaïe. Mais c'est parce que les noms étaient donnés par Dieu, en tout cas dans le chapitre 8 pour Maher Shalal Shashbaz. Dieu lui a dit, tu appelleras ton fils comme ça. Ça veut dire qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. C'était un avertissement pour Israël. C'est un avertissement et c'est un témoignage. Parce que ça a été dit avant que le roi d'Assyrie vienne dans Juda. Et donc ça a été un témoignage que Ésaïe l'avait prévenu, que Dieu avait prévenu le peuple. Regardez, ça fait X années que vous êtes déportés, mais ça fait plus d'années que mon fils est plus vieux que ça, et regardez son nom. Mais ce que je voudrais dire, c'est ce que ce matin, nous sommes un signe et un présage dans ce monde. Est-ce que le nom que nous portons, la réputation que nous avons, c'est un témoignage et un signe de la puissance de Dieu. Est-ce que lorsque les hommes et les femmes comparaîtront dans la présence de Dieu un jour, Dieu pourrait dire, mais tu as vu cette personne, tu as rencontré et tu as vu ma personne en elle. Tu savais qu'elle avait quelque chose que tu n'avais pas. C'est un signe que j'avais mis sur ta route. Pourquoi l'as-tu méprisée? Pourquoi n'es-tu pas allé la voir, n'est-ce pas, pour lui demander ce que c'était cette joie, cette paix, cette espérance? Donc voilà, cette famille était un signe, les enfants, et je trouve que c'est très beau. La femme est prophétesse, l'homme est prophète, les fils sont des prophètes. Est-ce que c'est ça que vous désirez? Est-ce que c'est ça que vous désirez? Que vos familles entières soient des prophètes de Dieu. Prophète, ça veut dire parler au nom de Dieu. Et j'aimerais terminer avec quelque chose qu'on trouve dans le chapitre 8, qui suit bien sûr dans la logique de tout ce qui vient d'être dit, mais qui est un avertissement encore. Ça se trouve au verset 19, « Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ?» Alors vous allez dire, voilà, ça c'est, et c'est exactement ça, effectivement, notamment, mais vous allez dire, ça c'est un avertissement qu'il ne faut pas aller voir les médiums. Évidemment, bien sûr, c'est ça, mais c'est plus que ça. Regardez le verset 20. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Au verset 19, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et si vous êtes passé par le catholicisme, que vous avez prié aux saints, que vous avez prié à Marie, que vous avez prié aux morts en faveur des vivants, et il faut que ça passe par la repentance. C'est pas banal, c'est pas culturel. C'est pas dire oui, mais c'est évident. Quand on est éduqué dans une famille catholique, quand on va à l'église catholique, c'est normal de le faire, puisqu'on nous enseigne que c'est ça qu'il faut faire. Mais ce qui fait autorité dans nos vies, ce n'est pas ce qu'enseigne une église, c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Il y a besoin de passer par la repentance, de juste demander, Seigneur, purifie-moi. Parce que je suis adressé aux morts en faveur des vivants. Voilà ce que dit ensuite Ésaïe. Si on ne fait pas ça, si on ne dit pas, un peuple consultera-t-il les morts en faveur des vivants? Est-ce qu'il ne doit pas consulter son Dieu plutôt? Eh bien, si on ne dit pas ça, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, de sombres angoisses. Il sera poussé, repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit, n'est-ce pas, dans notre France, dans notre Europe. Et si on vient à Jésus, si on vient à Dieu, eh bien on peut découvrir le chapitre 9, et vous le lirez chez vous, mais vous le connaissez bien. Le chapitre 9 d'Ésaïe commence en disant « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Et dans ce chapitre 9, Ésaïe prédit que Jésus va venir. Il dit qu'un sauveur nous est donné, n'est-ce pas? On l'appellera conseiller, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est en cette rencontre avec Jésus que la lumière vient, que les yeux des aveugles s'ouvrent, que la lèpre disparaît, que le péché est disparaît, l'emprise du péché progressivement disparaît. C'est là où la lumière vient dans nos vies, où l'eau commence à couler comme un fleuve d'eau vive dans nos vies. C'est ça que Dieu veut pour nous ce matin, c'est ça qu'il veut pour moi. Simplement, c'est à nous de rentrer, de dire « Seigneur, je le veux ». Je veux connaître ça et je réponds positivement à ta parole ton esprit qui m'appelle, qui me demande de venir. Amen.